ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi, Dorcil, bonsoir à tous. Bienvenue dans la première édition du 19 janvier 2017. Au sommaire ce soir, Adama Barrow a prêté serment comme nouveau président de la Gambie aujourd'hui à l'ambassade de Gambie à Dakar. C'est aussi la mobilisation des pays d'Afrique de l'Ouest pour une éventuelle opération militaire afin de déloger Yahya Jammeh. Au Burkina Faso, plusieurs membres de l'ex-garde présidentielle ont été condamnés aujourd'hui par la justice burkinabé. Jour J-1 aux États-Unis, dernier préparatif pour l'investiture de Donald Trump demain à Washington. Et Cannes 2017 au Gabon, le Sénégal en passe d'avoir son ticket pour la prochaine étape. Suite de la Coupe d'Afrique des Nations, Bagassi Koura, le Sénégal doit d'abord battre le Zimbabwe.
Oui, ce sera tout à l'heure, à 19h, temps universel. Le Sénégal, donné grand favori de cette CAN 2017, qui a remporté son premier match, fait face donc à 19h au Zimbabwe, l'équipe surprise de cette CAN 2017, et qui a quand même donné bonne impression. Donc en cas de victoire ce soir à 19h, Chérubin, les Lions de la Teranga seront au deuxième tour.
Donc rendez-vous dans quelques minutes pour le journal de la CAN. Merci Bagassi Koura. À Dakar, au Sénégal.
I humbly stand before you to address the whole world on this historic occasion.
Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre en Gambie, a prêté serment cet après-midi en présence de plusieurs dignitaires étrangers. Nous avons en direct notre correspondant au Sénégal, Seydina Abba Gueye. Bonsoir Seydina.
Oui, bonjour.
Alors, comment s'est déroulée la cérémonie?
Le président Adama Barrow est arrivé aux alentours de 17h et il a prêté serment sur le Saint-Coran en garantissant l'unité et qu'il serait le président de tous les Gambiens. Il a prêté serment devant le corps diplomatique accrédité à Dakar, notamment l'ambassade des États-Unis et celui de la France. Le Sénégal était représenté à cette cérémonie par le premier ministre Mohamed Boun Abdallah John. Il y avait aussi la représentante des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, mais aussi le président du Parlement de la CEDEAO. Ce qu'il faut retenir de cette prestation de serment, c'est l'appel qu'Adama Barrow a lancé à Yahya Jammeh en vue de consolider la démocratie en Gambie, parce que le nouveau président gambien a souligné que c'était la première fois de l'histoire qu'une passation démocratique de pouvoir pouvait avoir lieu en Gambie, car c'est la première fois qu'un président en exercice était battu aux élections. Il a aussi appelé l'armée régulière à être loyale avec le président élu, et aussi les Gambiens à être soudé, car il dit qu'il sera le président, pas de ceux qui ont voté pour lui, mais de toute la population gambienne.
Merci Seydina Abba Gueye, notre correspondant à Dakar, au Sénégal. Alors que des troupes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se rassemblent pour être prêtes en cas d'intervention, l'ONU s'apprête à voter pour appuyer la CEDEAO en Gambie. Claire Morin-Gibourg.
Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait voter à 18h temps universel un projet de résolution présenté par le Sénégal pour soutenir une éventuelle intervention militaire des pays de la CEDEAO. Les Nations Unies appellent Yahya Jammeh à mener un processus de transition pacifique et à transmettre le pouvoir au président élu Barrow. Une source militaire sénégalaise a confirmé que des soldats du Sénégal et du Nigeria sont en alerte et prêts à intervenir. Le Ghana a donné son accord pour déployer 205 militaires si besoin était. Le calme règne à Banjul où de nombreux militaires patrouillent. Tard hier soir, le chef de l'armée gambienne a déclaré qu'il n'ordonnerait pas à ses hommes de résister en cas d'intervention des troupes ouest-africaines. Le général Ousmane Badji a précisé qu'il s'agissait d'une dispute politique et qu'il n'allait pas impliquer ses soldats dans un combat qu'il a qualifié de stupide.
L'AFP signale des vols de reconnaissance de l'armée nigériane au-dessus de Banjul, la capitale de la Gambie. À Ouagadougou, le verdict du premier de la longue liste des dossiers pendants devant le tribunal militaire, celui dit affaire Caporal Madi, est tombé aujourd'hui. Avec 28 autres, il était poursuivi pour tentative d'évasion des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. 20 des 29 accusés ont été déclarés coupables. Le cerveau du groupe, le caporal Madi Ouedraogo, a reçu la plus lourde peine, soit 15 ans de prison. Zoumana Wonogo est notre correspondant dans la capitale burkinabé.
Commencé en décembre de l'année passée, le procès de l'affaire Caporal Madi Ouedraogo et 28 autres personnes accusées d'avoir tenté d'attaquer la prison militaire pour libérer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé a donné son verdict ce mercredi 18 janvier. Le tribunal a retenu que 20 des 29 accusés sont coupables. Ainsi, le cerveau du groupe, le caporal Madi Ouedraogo, le sergent Mahamadi Zale et un civil Cheikh Alassane Ouedraogo Diladji ont écopé de la plus lourde peine, 15 ans de prison ferme. 15 autres accusés ont été condamnés à 10 ans de prison et 2 ont pris 6 mois ferme. Ce procès, que l'on a qualifié de procès des seconds couteaux, n'a pas manqué de rebondissements, avec des révélations impliquant le général Yacouba Isaac Zida, Premier ministre sous la transition burkinabé. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu ce jeudi à Gao dans le nord au lendemain d'une attaque terroriste qui a fait 77 morts et plus d'une centaine de blessés. Boubacar Touré.
Le président de la République et sa délégation ont tout d'abord fait un tour au lieu du drame, puis la délégation s'est rendue à l'hôpital où sont couchés les nombreux blessés de l'attaque perpétrée contre le camp du Mok hier dans la matinée. Ensuite, le président de la République a rencontré les responsables administratifs de la région et la notabilité. Là, le président de la République a dit ceci.
Nous sommes venus pour témoigner à cette ville martyre de Gao, à notre vaillant peuple de Gao, notre jeunesse malienne de Gao, toute notre sympathie. Elle a été atteinte, cette jeunesse, lâchement, atrocement. Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Il le paiera. Al-Mourabitoum paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Les groupes armés ont mené 118 attaques contre l'armée malienne, la force de l'ONU, la MINUSMA et la force française Barkhane au Mali en 2016, a indiqué aujourd'hui l'armée française.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Nigeria a ouvert une enquête sur le bombardement accidentel qui a fait au moins 70 morts près d'un camp de déplacés dans le nord-est du pays. L'enquête, qui est menée par l'aviation militaire, vise à déterminer les causes et les circonstances de cet événement tragique. Les opérations pour secourir les blessés se poursuivent depuis 2 jours. Par ailleurs, le président Muhammadu Buhari du Nigeria doit se rendre à Londres pour un contrôle de santé, selon un communiqué de la présidence. C'est la deuxième visite de M. Buhari à Londres pour cause de santé à moins d'un an. À Brazzaville, les choses se compliquent pour l'ancien candidat à la présidence André Okombi Salissa. Il a perdu son immunité parlementaire à l'Assemblée nationale où seuls 4 députés de l'opposition ont voté contre. Les autres membres présents, 113 en tout, étaient tous du parti au pouvoir. Les frappes américaines contre le groupe État islamique hier soir en Libye ont tué plus de 80 djihadistes. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le secrétaire américain à la défense Ashton Carter. Les militaires américains ont bombardé 2 camps de Daesh, situés à environ 45 km de Sirte, selon le Pentagone. La perte de Sirte en décembre, après des mois de combat, a été un revers important pour le groupe État islamique. Ici aux États-Unis, Donald Trump a annoncé ce jeudi le 15e et dernier membre de son cabinet. L'ancien gouverneur de Géorgie, Sonny Perdue, est nommé ministre de l'Agriculture, un poste soumis à la confirmation du Sénat, comme pour le reste de l'équipe gouvernementale. 7 postes ne font pas formellement partie du cabinet, mais ont un rang protocolaire équivalent, notamment le secrétaire général de la présidence, de la Maison-Blanche, le chef de l'Agence de protection de l'environnement ou l'équivalent du ministre du Budget. Parmi eux, seul le poste de président du Conseil économique reste pour l'instant vacant. Le premier ministre russe Igor Shuvalov a déclaré que son pays a renoué avec la croissance à la fin de l'année dernière et Moscou s'attend à ce que la croissance atteigne entre 1% et 2% cette année. Il s'est prononcé lors du sommet économique de Davos en Suisse. Selon lui, la Russie a surmonté la crise économique et compte recevoir d'importants investissements étrangers, même si les États-Unis ne lèvent pas leurs sanctions après l'entrée en fonction de Donald Trump demain. Plus de 20 pompiers ont péri aujourd'hui dans l'effondrement d'un immeuble de 15 étages à Téhéran. Le maire de la capitale iranienne, Mohammad Baher Khalibaf, affirme que l'effondrement a été provoqué par un incendie dont la cause n'a pas encore été précisée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place au journal de la CAN avec Bagassi Koura.
Bonsoir à tous. Place au match du groupe B ce jeudi à Franceville depuis 16h temps universel. Le duel maghrébin Algérie-Tunisie Et bien sûr, c'est la Tunisie qui domine la partie à 10 minutes de la fin, 2-0. À 19h, temps universel, le leader de cette poule, le Sénégal, aura un match piège face au Zimbabwe qui avait chahuté l'Algérie au tour précédent. On retrouve sur place Amdine Sy pour VOA Africa. Bonsoir Amdine.
Bienvenue. Voilà, vous. Non, c'est pas envie. C'est bienvenue au stade de la rénovation. Sans-Ville se joue quand même cette deuxième journée de la poule verte. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est la Tunisie qui a la grande surprise par 2-0. On a vu marquer déjà à la 55e. Et c'est Naïm qui a doublé la mise sur penalty après une faute sur Kadri. Comme vous l'avez dit tantôt, en deuxième tour, on aura quand même un match très important entre Sénégalais et Zimbabwéens. Ce sera certainement un duel épique entre Lions de la Teranga et Guerriers du Zimbabwe. Un match que vous pouvez suivre dans 2 heures de temps, Bagassi Koua.
Merci infiniment. Le groupe C demain reprend ses droits à OIM. Léopard de la RDC contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Rencontre très attendue. Les deux entraîneurs espèrent bien sûr la victoire au bout. Les détails sur place à OIM avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre partenaire.
Nous allons aborder le match de ce vendredi avec la ferme détermination de garder la tête du groupe, a dit en conférence de presse Florent Ibengué. Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC promet également que son équipe va jouer face à la Côte d'Ivoire différemment du Maroc.
Et garder la même philosophie, quel que soit l'adversaire. Maintenant, tactiquement, on ne va pas jouer de la même façon qu'on a joué contre le Maroc.
Du changement attendu également chez les éléphants, annonce Michel Dussuyer, qui parle de la RDC comme un adversaire compétitif, agressif et très généreux.
Il y aura des changements d'attitude, parce que ce premier match, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait dans un match de Coupe d'Afrique.
OIM, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, le second match oppose demain à 19h, le Maroc au Togo. Après la défaite en première journée face à la RDC, Hervé Renard, le sélectionneur des Lions marocains, est revenu sur ce qu'il qualifie de maître mot pour gagner ce deuxième match.
Je suis persuadé qu'en football, quand on est capable de produire le match qu'on a produit, à un moment ou à un autre, on est récompensé. Donc il faut persister, croire en soi, croire en son partenaire, croire au groupe et ne jamais douter. Meilleur exemple, vous avez vu encore hier le Cameroun qui est mené 1-0 et qui baisse pas les bras et qui à la fin gagne un match très très difficile mais très important.
Voilà Hervé Renard, sélectionneur des Lions de l'Atlas au micro de Thierry Kamboundi. Côté togolais, c'est Sébastien Migné, le sélectionneur adjoint qui était face à la presse ce jeudi. Il espère que les éperviers réditeront la même performance que face aux champions en titre.
Alors euphorique, oui, après le match, mais je peux vous dire que dès le lendemain, on était focalisé sur ce deuxième match, ce deuxième monstre qui arrive face à nous, avec des caractéristiques totalement différentes, et encore une fois, essayer de faire rééditer une très belle performance face à un bel adversaire. Ce ne sera pas facile.
Voilà, c'était donc Sébastien Migné, le sélectionneur adjoint du Togo. Soirée riche en émotions dans le groupe A à Libreville, au stade de l'Amitié. Les Lions Indomptables sont passés proches de la sortie avant de se reprendre face à une étonnante équipe bissau-guinéenne. Victoire 2-1, ce qui a inspiré bien sûr Jules Valentin Ngoué pour son coup de sifflet.
La débauche d'énergie constatée dans la poule A lors de la deuxième journée démontre s'il le fallait la volonté des protagonistes de décanter la situation et se positionner favorablement avant les matchs décisifs de dimanche. Face à un Burkina Faso que la qualité de l'effectif pousse tout naturellement vers l'avant, le Gabon, libéré du carcan défensif de la première sortie, s'est mieux exprimé dans un match très engagé qui, sans être violent, a tout de même nécessité 6 remplacements pour blessures, la plupart dus à l'état de la pelouse. Le score de parité qui a sanctionné cette rencontre est équitable, mais n'arrange personne. En deuxième match, le Cameroun, trop prévisible, est bloqué tactiquement par une équipe du Guinée-Bissau, toujours aussi à l'aise dans son rôle d'outsider, n'a trouvé la solution qu'en seconde mi-temps, en ouvrant finalement les couloirs, d'où l'inversion victorieuse du score dans la dernière demi-heure de jeu. Le mental d'acier et l'efficacité dans des tirs pourtant plus lointains sont de retour. Les lignes ont donc bougé dans ce groupe A où tout reste possible.
Merci Bagassikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et nous passons tout de suite à la page économique ce soir avec Eric Manirakiza.
L'Afrique a attiré plus de touristes en 2016 contre toute attente. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre a augmenté de 8,1%, mais en 2015, il y a eu une baisse de 2,5% par rapport à 2014. Le Maroc reste la première attraction touristique du continent. Coup d'envoi de la construction d'une zone de libre-échange à Djibouti sur 48 km², la plus grande d'Afrique. Cet investissement chinois devrait rapporter 7 milliards de dollars dans 2 ans et 15 000 emplois directs et indirects vont être créés dans le pays. Au cœur du golfe d'Aden et de la mer Rouge, entre l'Érythrée et la Somalie, Djibouti vise aussi à devenir la porte d'entrée vers l'Éthiopie, le Soudan du Sud et la région des Grands Lacs. Pour s'assurer de la pertinence et l'efficacité des dépenses publiques, le Cameroun met en place un manuel unique de procédure de contrôle des investissements publics. Cette année, la part allouée à l'investissement se chiffre à 1 586,9 milliards de francs CFA et représente 36,7% du budget global de l'État.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Chérubin Gabi Dorsil à votre compagnie. Merci de nous rejoindre si vous venez à peine de le faire. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir est ici même à Washington. Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis demain, vendredi 20 janvier. L'homme d'affaires prêtera serment sur les marches du Capitole, une cérémonie que suivront à la télévision des millions de personnes à travers le monde. Les investitures présidentielles aux États-Unis sont le symbole historique du transfert pacifique du pouvoir et reflètent souvent des changements politiques. Jacques Aristide.
C'est un rituel de la démocratie américaine aussi vieux que la République. L'événement marque la fin d'une ère et le début d'une autre, bonne ou mauvaise. En 1933, Franklin Roosevelt prête serment durant la Grande Dépression.
Tout d'abord, permettez-moi d'affirmer ma ferme conviction que la seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même.
En 1961, John Kennedy inspire une nouvelle génération d'Américains avec cet appel.
Compatriotes américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.
20 ans plus tard, le républicain Ronald Reagan arrive au pouvoir, promettant de réduire la taille du gouvernement.
Face à la crise actuelle, le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème.
Après sa victoire en novembre, le président élu Donald Trump a fait une tournée dans certains États et a promis de tenir à ses promesses de campagne.
C'est vraiment un tournant que nous vivons. L'histoire n'est pas encore écrite. Nous ne savons pas ce qui sera écrit sur la page demain, mais pour la première fois depuis longtemps, nous savons que les pages seront rédigées par chacun d'entre vous. C'est un mouvement.
Le pays reste divisé après la victoire de Trump. L'un des défis que doit relever le nouveau président sera de forger l'unité, selon le politologue John Forty.
C'est une occasion très importante. La première étape pour vraiment s'adresser au pays en tant que président, pour peut-être dire qu'il faut laisser derrière nous certains différends.
Historiquement, l'investiture présidentielle permet d'oublier la férocité des campagnes électorales dans un esprit de continuité et de démocratie, d'après John Hudak de la Brookings Institution.
Le président Obama voyagera dans une voiture avec le président élu Donald Trump de la Maison-Blanche au Capitole et il va pacifiquement transférer le pouvoir et regarder son successeur prêter serment, pas celui qu'il voulait, mais son successeur néanmoins. Cela ne se produit pas partout dans le monde. C'est un événement important dans ce pays.
Trump est connu pour ses improvisations lors de ses rassemblements, mais qu'en est-il de son discours d'investiture? Norm Ornstein de l'American Enterprise Institute.
Un discours d'investiture est généralement élaboré et écrit à l'avance et le président le lit. Donald Trump fera-t-il sans un script et ne comptera-t-il que sur lui-même? C'est dans le domaine de l'inconnu.
Donald Trump est donc sur le point de devenir le 45e président et le ton qu'il donnera au début de son mandat sera probablement une indication du type de leader qu'il aspire à devenir.
Cannes 2017, l'Algérie cherche l'égalisation. L'Algérie vient de marquer 2-1 pour la Tunisie. Retour à nos dossiers. Les soldes de plus de 12 mois des militaires burundais de la MISOM seront payés. C'est la promesse faite par le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, l'Algérien Smaïl Cherghi, qui vient de séjourner pendant 2 jours à Bujumbura, où il a rencontré le président Pierre Nkurunziza. L'ambassadeur Cherghi avait rendu hommage hier aux militaires burundais tombés sur le champ de bataille en Somalie. On fait le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans une conférence de presse à l'aéroport international de Bujumbura, le commissaire de l'Union africaine a affirmé que prochainement, les soldes militaires burundais combattant les terroristes El-Shabaab en Somalie seront payés dans un mémorandum d'entente signé entre le gouvernement burundais et l'Union africaine. L'ambassadeur Smaïl Cherghi indique qu'un terrain d'entente a été trouvé.
Les retards enregistrés dans le paiement de ces salaires ne touchent pas que le Burundi. Je suis heureux de vous dire que nous avons réglé cette question aujourd'hui ici et également le Burundi a signé avec moi aujourd'hui le mémorandum qui permet à l'Union africaine de transférer ces salaires au bénéfice de la défense nationale ici et de nos soldats. C'est un bon développement. Cela permettra à ces forces de continuer à travailler dans la sérénité.
À sa descente d'avion, le commissaire de l'Union africaine s'est rendu mercredi au cimetière de Mwanda où sont enterrés les militaires burundais qui sont tombés sur le champ de bataille en Somalie. Smaïl Cherghi a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du général Juvenal Niyoyunguruza tué en 2009 alors qu'il était le commandant second de la MISOM. Pourquoi s'être rendu d'abord au cimetière de Mwanda, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaïl Cherghi?
Je crois que c'est un devoir élémentaire que de venir ici rendre hommage à nos soldats de la paix qui ont payé le prix le plus élevé pour donner la possibilité à leurs sœurs et frères somaliens de retrouver la quiétude, la paix, la sécurité. Je pense que c'est le minimum et nous continuerons à fleurir leur mémoire et à nous rappeler de ce geste suprême qu'ils ont fait.
Cette visite du patron de la paix et de la sécurité à l'Union africaine intervient au moment où les autorités burundaises ont déjà amorcé le processus de retrait des plus de 5000 militaires burundais qui combattent El-Shabaab en Somalie. Le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, a indiqué que même si les militaires burundais rentraient ou pas au bercail, leur courage et abnégation sera toujours reconnu par toute la communauté internationale.
Ils l'ont fait en Centrafrique. C'est un témoignage bien dû, encore une fois. Nous leur souhaitons très bon repos. Et au pays qui les a envoyés, nous les renouvelons nos remerciements et notre reconnaissance.
L'argent des militaires burundais qui peut arriver d'un moment à l'autre, va-t-il transiter par leur compte, comme le veut l'Union européenne, après les sanctions prises à l'encontre du Burundi depuis plus d'une année? Difficile de trouver une réponse pour le moment, car l'Union européenne n'a pas voulu s'exprimer avant de voir le mémorandum d'entente. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et si vous n'êtes pas branché sur la CAN, le match Tunisie-Algérie vient de prendre fin. Victoire de la Tunisie par 2-1. En République du Congo, les 11 établissements de l'université Marien Gwabi ont entièrement repris les cours après des perturbations de l'année dernière. Les autorités se félicitent d'avoir mis en place un mécanisme de dialogue avec les enseignants et les étudiants pour éviter les grèves. Le reportage de Nguelan Goussou à Brazzaville.
Après une fin d'année académique très agitée par les grèves et les violences, la bourse d'étudiants a été payée en fin 2016 et les revendications des enseignants satisfaites. Les cours ont repris, témoignent ces étudiants de la faculté des lettres à Bayardé.
On parle maintenant des devoirs, valider les semestres ou comment. On ne parle plus de la grève.
Oui, ça nous gêne parce que ça perturbe nos cours. On n'acquiert pas la connaissance normalement. Du coup, ça nous déçoit.
Sinon que le cycle licence a bel et bien repris les cours. Mais les cycles master sont en phase de préinscription.
Gracia Lindanga, un responsable du mouvement des étudiants, révèle cependant quelques difficultés.
Nous avons la campagne de dépôt des dossiers de la bourse.
Il faut que les étudiants aient tous leurs résultats définitifs.
Le non-paiement de la bourse est la principale cause des mouvements de protestation à l'université Marie Ngouabi. Cette année, le gouvernement a prévu 37 milliards de francs CFA pour les bourses, insuffisant pour les quelques 55 000 étudiants. Grégoire Osebi, le directeur général des bourses, appelle les étudiants à la compréhension.
À l'université Marie Ngouabi, on a payé 3 trimestres. Bon, il faut comprendre cela, dû aux difficultés. Nous tous, nous avons le devoir de dire à ces étudiants, puisque ce sont tous nos enfants, nous devons leur dire, oui, attendez, la bourse sera payée.
Le ministre de l'enseignement supérieur, lui, se félicite. Bruno Jean-Richard Itoua.
Petit à petit, nous avons commencé à résorber le gap en ce qui concerne l'essentiel des revendications des enseignants. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de grève depuis plus de 3 mois, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'intersyndicale dans un climat de compréhension mutuelle. Nous allons nous mobiliser tous pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de raison que ces grèves aient de nouveau lieu en 2017. Nous travaillons dans un climat de grande compréhension avec les syndicats des étudiants.
Reportage de Nguelan Goussou à Brazzaville.
Le feuilleton lié à la fermeture de près d'une douzaine d'organes de presse n'est pas prêt de connaître un quelconque dénouement. Pendant que les employés de ces organes attendent de retrouver leur job, les associations Fêtières et la HAC se livrent une guerre sourde qui embrouille quelque peu. Déjà 2 sit-ins pour lesquels les manifestants ont été interdits, en tout cas devant le siège de l'instance de régulation. Celui de ce mercredi a eu lieu à la Bourse du Travail où certains syndicalistes ont appelé les professionnels des médias à opter pour des journées morte.
Il faut une réponse appropriée à ce comportement qui vise à dénier les droits les plus élémentaires aux travailleurs. Il faut une journée presse morte. Il faut passer à une autre phase.
Donc cette lutte doit être menée par nous tous ici présents. Ce sont des entreprises de presse qui ont été fermées.
Dans le rang des professionnels des médias, la division est palpable. Pour plus d'une centaine d'organes de presse existants, seulement une vingtaine d'hommes et de femmes ont répondu à l'appel des association Fêtière. Pour certains comme Josué, journaliste au quotidien de presse publique, trop d'amalgame dans ce dossier au point où le patronat de la presse togolaise se croit capable d'éteindre un feu qui n'existe pas.
On ne comprend pas comment dans une situation comme celle-là, la Fêtière des journalistes se met beaucoup plus en ébullition, se met beaucoup plus en évidence, se met beaucoup plus au devant de la scène alors que le Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel du Bénin qui devrait être la première structure au devant de la scène préfère rester un peu dans un attentisme.
Pour d'autres encore, les associations n'ont plus aucune crédibilité, se servent de cette crise pour se refaire une santé.
Elles ont raté le coche. Il y a eu plusieurs occasions où elles devraient donner la voix. Elles ne l'ont pas fait et elles en payent le prix aujourd'hui. Elles ont un discours qui n'est pas audible parce que c'est perçu comme un discours qui n'est pas sincère, parce que c'est perçu comme un discours à la tête du client.
Mais qu'en est-il de la journée presse morte qui pourra être organisée dans les prochains jours? Là encore, les avis sont partagés.
Journée presse morte, c'est encore peu dire. Il faudrait y aller avec beaucoup plus de force. C'est-à-dire que même si on peut aller à 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois, ce serait très bien parce que je pense que la HAC en elle-même, sans le fonctionnement des médias, n'existe pas.
On est en face d'une menace, d'une vraie menace d'embrigadement de liberté de presse. Et donc, il faut maintenant agir pour ceux qui sont en danger aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qui sera dans le pétrin de la HAC demain.
Une journée presse morte, c'est d'abord priver la population de l'information. Moi, ce que je propose, c'est qu'on trouve un terrain d'entente entre l'institution qu'est la HAC et les structures fêtières de la presse.
Il y a quelques années encore, un quotidien béninois a été fermé par l'instance de régulation et n'a plus jamais été autorisé à ouvrir ses portes. Les responsables des médias fermés actuellement vivent dans la hantise d'un tel cauchemar et font feu de tout bois pour l'éviter. Impossible en tout cas au jour d'aujourd'hui de dire la suite à donner à cette affaire sur laquelle les professionnels des médias ne parlent pas la même langue. De Cotonou, Ginette Fleur à Dondé pour VOA Afrique.
Merci Ginette pour ce reportage sur la situation de la presse au Bénin. Ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde ce soir, c'était Lionel Gaïma. Nous avions notre ami Rachad à la console, à la présentation. Chérubin, Gabi Dorsil. On reste en contact sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.